Le journal Sébastien Paour.
Bonsoir à tous. Il a sauvé sa tête en offrant la mienne. La directrice de cabinet limogée sur son ancien ministre, François de Rugy, vous l'entendrez. Et on s'arrête ce soir sur l'appartement que le numéro 2 du gouvernement loue à près de Nantes, à loyer préférentiel, sans le savoir, dit-il. On verra si c'est possible. Au sommaire également ce soir, les conseils pour rester calme dans les bouchons. Grand week-end de départ en vacances. L'assistant Google qui enregistre et écoute vos conversations. Les conseils lecture d'Ilan Amor-Youssef pour l'été. Et au téléphone sonne, bonsoir Claire Servageant.
Bonsoir Sébastien Paour. Eh bien, on va parler des arnaques de l'été, cette saison. On parlera notamment des locations de vacances qui sont parfois un petit peu fantaisistes. On parlera aussi cyberdélinquance avec la publication du rapport annuel du ministère de l'Intérieur qui a été publié cette semaine. On verra que dans ce domaine, l'imagination des escrocs n'a aucune limite. Alors, si vous aussi vous avez des mauvaises surprises, appelez-nous au 01 45 24 7000.
C'est toujours le même numéro. Merci Claire, à tout à l'heure dans 20 minutes.
France Inter.
Les maillots sont dans les valises dans le coffre de la voiture, les grandes vacances sont au bout de la route, mais vous êtes dans les bouchons. Nouveau grand week-end de départ. Dès ce soir, c'est rouge en Ile-de-France. Ce sera orange demain partout en France. Il fait chaud. Les enfants demandent déjà quand est-ce qu'on arrive, serré derrière entre le chat et les planches de surf. Comment rester zen quand on est quasi à l'arrêt? Quelques idées avec Julie Pietri.
Alors du con, tu pars ?
Pour ne pas en arriver à de telles extrémités, en cette période de départ en vacances, il y a d'abord le bon sens, la sagesse.
Bah déjà, on évite de partir au moment où il y a trop de monde, on décale son départ. Je pense qu'on a quand même un peu galéré à certains moments dans des situations comme celle-là et on a dit plus jamais.
Mais si vous y êtes déjà là dans les bouchons ou si vous savez que vous y serez coincé demain à un moment ou à un autre, que faire? Petit florilège de conseils pour faire redescendre la pression.
Ça sert à rien de hurler, il faut garder son calme. Des fois, on parle avec des personnes à côté qui sont dans les mêmes bouchons que nous, on crée des liens avec des gens, il y a possibilité aussi. Au moins, ça fait passer le temps.
Est-ce que vous êtes du genre très calme?
Non. Je suis un peu nerveux, quoi.
Il s'énerve plus, ah oui, j'en ai marre, assez, je voulais pas partir, voilà, je savais que c'est tout.
Mais j'arrive à me calmer quand même. Je mets la musique un peu plus fort. Musique et, c'est vrai, un petit peu d'eau.
Vous lui massez les épaules un peu pour lui dire, vas-y, calme-toi.
Ah non, moi, je lui fais rien du tout, j'attends qu'il se calme. Hein.
Christophe. Vous êtes comment en voiture, vous?
Ah, je suis très calme. Là, on va faire 6000 km. On fait un gros road trip. On fait une grande partie de l'Europe.
Qu'est-ce qui vous relaxe quand vous êtes au volant?
Ouais, c'est du hard, du métal. Je fais mon mouvement de tête de rocker et c'est parfait. Rammstein, ça calme.
Le groupe allemand de métal, Rammstein, pour rester cool au volant. Pourquoi pas? Merci Julie Pietri pour ce reportage. Faut-il le mettre, ce groupe Rammstein, dans l'autoradio en ce moment? On voit ça avec vous. Bonsoir Alice Cachaner.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Oui, a priori en Vallée du Rhône, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, vous êtes assez nombreux sur l'A7, direction la Méditerranée. Conséquence, il y a beaucoup de ralentissements entre Lyon et Orange, mais bon, on est en fin de journée, donc la situation est en train de s'arranger. C'est particulièrement difficile toujours entre Chana et la sortie de Valence. Du côté de la région parisienne, eh bien, c'est classé rouge et les bouchons se trouvent surtout dans les Yvelines, sur l'A13 en direction de la Normandie. Là, vous mettez près de 2h30 pour aller à Caen depuis Poissy au lieu d'1h45 en temps normal. Et du côté de l'A10 en direction de Bordeaux, eh bien, un peu plus de monde à partir de Poitiers.
Alice Cachaner, merci, en direct du PC Mobilité de Radio France.
Il n'a aucune raison de démissionner.
C'est lui qui le dit, François de Rugy, ministre de l'écologie, confirmé à son poste hier et qui assure aujourd'hui qu'il ne lâchera pas face à cette machine lancée contre lui. Il n'empêche, l'embarras est là, ses articles de Mediapart sur ses dîners du temps où il présidait l'Assemblée, ceux de pièces louées près de Nantes, à loyer social préférentiel, on va y venir, et sa directrice de cabinet qui bénéficiait d'une HLM pendant 12 ans alors qu'elle n'habitait plus Paris. Remerciée hier, elle parle aujourd'hui. La préfète Nicole Klein assure qu'elle était éligible à ce logement à l'époque, en cours de divorce avec 3 enfants. Et elle revient sur son limogeage, très brutal. Elle est au téléphone avec Béatrice Duguay.
C'était un moment d'une grande violence. Bon, la première violence, évidemment, ça a été l'article de Mediapart, le moment où le journaliste s'est pointé devant ma porte à 9h du soir. Ça, c'était évidemment très violent. Et la manière dont le ministre d'État a réagi était aussi extrêmement violente, parce que je ne m'attendais pas, finalement, à un licenciement brut, puisque je n'ai eu pas de temps pour m'expliquer. Alors qu'évidemment, quand on explique les choses, elles sont beaucoup plus acceptables. Il y a eu un décret mettant fin à mes fonctions ce matin. Je ne suis plus directrice de cabinet, c'est ainsi, hein, c'est la vie aussi des hauts fonctionnaires justement. Mais c'était la manière dont ça a été fait a été très brutale et très inélégante. Je ne peux pas me laisser attaquer injustement. J'ai un honneur à défendre, une réputation à défendre. L'État aussi d'une certaine manière, parce que en m'attaquant moi, c'est les fonctionnaires de la République qu'on attaque. Hein. On fait des métiers qui sont des voilà grandeur et servitude, qui sont à la fois exaltants et puis qui impliquent aussi une grande mobilité et des contraintes personnelles que beaucoup de gens ignorent.
Et l'entretien de Nicole Klein est à retrouver en intégralité sur le site de France Inter et sur celui de nos amis de West France. Revenons maintenant sur un autre appartement, ce deux pièces donc loué près de Nantes par François de Rugy et qui serait à loyer social préférentiel. Le ministre assure qu'il ne le savait pas. Bonsoir Faustine Calmel.
Bonsoir.
Est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible. Si ni l'agence gestionnaire de ce deux pièces ni la propriétaire n'ont informé François de Rugy que cet appartement était sous le régime du dispositif Cellier. Et c'est bien ce qu'assure le ministre. Ce dispositif permet aux propriétaires de bénéficier de réductions d'impôts en louant son bien à un tarif inférieur au marché, mais seulement à des locataires qui gagnent moins d'un certain montant, en l'occurrence 34 790 euros par an. Et ce n'est pas au locataire, mais bien à l'agence de s'assurer que tout est en règle, précise Christine Fumagalli, présidente du réseau d'agences immobilières Orpi.
On constitue le dossier, on vérifie les pièces, on contrôle que l'ensemble des pièces donne bien droit à l'accès au logement dans le cadre du dispositif fiscal. Ensuite, il y a possibilité, bien sûr, d'avoir par les impôts un contrôle de ce dossier a posteriori pour vérifier voilà que la déclaration faite par le propriétaire dans le cadre du dispositif répond bien à toutes les obligations.
Des contrôles qui, de la bouche du président de la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, ne sont pas très compliqués. L'administration fiscale demande alors au propriétaire son bail et les fiches de revenus de son locataire, mais ce ne sont pas des contrôles très fréquents.
Faustine Calmel, le ministre François de Rugy se dit encore très en colère face à ce qu'il nomme des mensonges. Il menace de porter plainte contre certains médias et il assure qu'il a toujours le soutien d'Emmanuel Macron.
19h07 sur France Inter, la suite du journal de Sébastien Paour, avec Sébastien, le géant Google, qui reconnaît qu'il nous écoute.
Oui, la firme américaine avoue que certains de ses employés ont accès à des enregistrements de son assistant vocal, qu'ils écoutent pour améliorer l'appareil. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir Sébastien.
C'est un média belge qui révèle l'information.
Oui, nos confrères de la VRT, la radio-télévision publique flamande, ils ont remonté la piste des écoutes de Google par un sous-traitant belge de l'entreprise américaine. Chaque semaine, l'employé en question procède à plusieurs milliers de transcriptions d'enregistrements. La plupart du temps, ce sont par exemple des bandes d'adresses ou des heures d'ouverture de magasins. Il s'agit ici uniquement de fichiers audio d'utilisateurs de Flandre ou des Pays-Bas. Le but avoué, c'est de créer une base de données pour permettre à la machine d'affiner sa compréhension des demandes formulées à l'oral en néerlandais. Google affirme ne soumettre que 0,2% des enregistrements à des experts en langue. Linguistique. Le problème, c'est que sur le millier de fichiers que la VRT a pu écouter, 15% n'étaient pas du tout destinés à Google. Des conversations au téléphone ou à proximité de l'enceinte connectée Google Home, des conversations enregistrées parce que l'assistant a cru entendre le message d'activation « OK Google », des conversations très privées qui ont carrément permis à nos confrères de remonter jusqu'à des personnes enregistrées à leur insu, des enregistrements dont on ne sait combien de temps ils seront conservés et qui, en théorie, pourraient aussi concerner par exemple des opérations bancaires ou des questions médicales.
Ok Pierre, merci. Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Lui est conçu pour être quasi silencieux malgré ses 99 mètres de long, le sous-marin Suffren, comme le prononcent les marins. Premier des nouveaux SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque, officiellement lancés par Emmanuel Macron à Cherbourg devant 700 invités. Le bâtiment sera mis à l'eau à la fin du mois pour des essais, livraison à la Marine nationale d'ici l'été prochain. Des débordements et une victime hier après la victoire de l'Algérie dans la Coupe d'Afrique des Nations de football. Une voiture a fauché une famille à Montpellier. La mère a été tuée, son enfant d'un an gravement blessé. Des magasins pillés aussi près des Champs-Élysées. 74 personnes interpellées au total. Des incidents inacceptables pour Christophe Castaner. Bonsoir Maxence Lambrec.
Bonsoir.
Alors que la droite et l'extrême droite, Maxence, sont sur la même ligne.
Oui, ils ont poussé dès hier soir le ministre de l'Intérieur à condamner ces violences et l'ont surtout appelé à mobiliser des milliers d'hommes dimanche prochain. 14 juillet, 21h, l'Algérie affrontera le Nigeria en demi-finale. Tout doit être fait, écrit le vice-président du RN, Jordan Bardella, pour éviter à la France, le jour de sa fête patriotique, une véritable humiliation nationale. Dans son communiqué, il réclame l'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées, comme ce fut le cas pendant la crise des Gilets jaunes, mais aussi l'interdiction du drapeau algérien. Le député RN Gilbert Collard le rejoint.
Il y en a marre, voilà. Bon, alors je sais bien que ce que je vous dis ne me vaudra pas le prix Nobel de la paix médiatique et que les bonnes âmes vont encore parler de honte, de récupération, d'amalgame et compagnie. Bon, mais il y en a marre. Faut pas généraliser, mais chez certains et d'une façon visible, il y a une haine de la France. C'est ça qui est triste, hein, mais c'est aussi quand même notre échec, hein, faut bien le reconnaître.
Et hors micro, un cadre du RN ajoute « On devrait tous les foutre dans des avions. S'ils aiment l'Algérie, qu'ils y retournent, ce ne sont que des Français de papier. » On peut là aussi parler d'une haine et sur les réseaux sociaux, vous imaginez la teneur des attaques. Marseille, ville française, s'interroge l'élu RN Stéphane Ravier. Ce soir, le Vieux-Port est occupé, verbe très connoté. Je refuse que des quartiers de Nice soient pris en otage par des revendications communautaristes, ajoute le député LR Éric Ciotti. Alors qu'à Béziers, le maire Robert Ménard a été filmé en train de s'énerver contre des supporters algériens. Regain de tension qui marque une fracture et qui permet d'accuser le gouvernement de laxisme.
Et à Alger, pendant ce temps, merci Maxence Lambrec. On manifeste de nouveau contre le régime aujourd'hui, après la fête de la qualification pour les demi-finales de la CAN, 21e vendredi de mobilisation. Plusieurs centaines de sans-papiers à l'intérieur du Panthéon cet après-midi à Paris, des migrants et des membres du collectif qui les aident, la Chapelle Debout. Ils réclamaient leur régularisation et un rendez-vous avec Édouard Philippe. Ils ont été évacués par les forces de l'ordre. 2 mois de prison avec sursis pour l'homme qui avait insulté Alain Finkielkraut. C'était en février, en marge d'une manifestation des Gilets jaune à Paris. Les mesures d'incitation à travailler plus sont retardées. Ces mesures pour inciter les Français à partir plus tard à la retraite ne seront pas en vigueur l'an prochain, mais progressivement pour préparer la mise en place du nouveau régime universel en 2025. Le gouvernement n'avait pas d'autre choix que ce volte-face pour Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'Épargne, que Laurent Kramer a eu au téléphone.
Il y avait un risque de télescopage évident. Il y avait la volonté de la part du gouvernement de faire preuve de rigueur budgétaire. Mais on sait très bien que les rapports du COR sont une année sur deux pessimistes et une année sur deux optimistes. Il est difficile de se faire son jugement. Cette année, le Conseil d'orientation des retraites nous a sorti un rapport pessimiste qui pouvait justifier des mesures d'ordre paramétrique. Mais c'est vrai que la lisibilité de l'ensemble était vraiment très très complexe. Et on risquait évidemment de brouiller complètement l'image de la réforme systémique. Et on voit d'ailleurs que dans les sondages, cette réforme qui était soutenue par une très large majorité des Français commence aujourd'hui à justement ne plus passer. L'opinion est en train de se retourner. Donc je pense qu'il y avait urgence pour le gouvernement de calmer la situation et d'éviter d'ouvrir un front sur la réforme des retraites, car on sait qu'elle sera très difficile à faire passer parce qu'il y aura des perdants et des gagnants dans ce système par points. Il ne fallait pas en rajouter d'autres dans le système paramétrique avant l'engagement de cette réforme par points.
À la page écho encore, Xavier Niel, plus fort que Valeurs Actuelles, le patron de Free prend le contrôle de 34% du capital de Nice Matin, que voulait aussi le propriétaire de l'Hebdo. Niel, déjà copropriétaire du Monde, rachète les parts du groupe belge Netis.
On passe au conseil de lecture.
Non, à l'état d'urgence d'abord.
À l'état d'urgence, décrété en Louisiane.
Absolument. C'est à l'approche de la tempête tropicale Barry, qui pourrait se transformer en cyclone la nuit prochaine. Déjà des vents à 85 km/h, des inondations et des évacuations à la Nouvelle-Orléans. En 2005, l'ouragan Katrina a fait 1800 morts en Louisiane. Et puis toujours aux États-Unis, le ministre du Travail démissionne. Alexander Acosta était sur la sellette pour sa gestion du dossier juridique de Jeffrey Epstein. Il y a une dizaine d'années, le financier est accusé d'abus sexuels sur mineurs.
Et maintenant, les idées de lecture pour l'été.
Absolument. La culture avant le sport, il y a du choix. Votre libraire vous aidera. Ici à Inter, c'est Ilana Moriousef qui tient la bibliothèque. Elle retient quelques titres pour vous aider. Certains dont on a déjà parlé ici, mais parfait, dit-elle, pour vos vacances.
Le tout premier est une enquête incroyablement romanesque menée par la journaliste Brigitte Benkemoun. Le carnet de Dora Maar, l'histoire véridique, commence avec un agenda acheté d'occasion sur un site en ligne.
Le paquet arrive. Et dans ce paquet, je vois qu'on a oublié un petit carnet d'adresses qui était resté glissé dans la poche intérieure. Donc je l'ouvre et le premier nom sur lequel j'ai buté, c'est Cocteau. Puis après, je les ai vus tous défiler, Aragon, Breton, Giacometti, Chagall, Lacan. J'avais sous les yeux une sorte d'annuaire intime du gratin culturel de l'après-guerre.
Ce carnet n'est autre que celui de Dora Maar, photographe, muse et compagne de Picasso, dont Brigitte Benkemoun retrace l'existence tourmentée à partir des noms consigné dans son carnet d'adresses. Deuxième suggestion, le livre de l'une des meilleures plumes du journal Le Monde, Raphaël Baquet. Elle publie Kaiser Karl, une remarquable enquête biographique sur Karl Lagerfeld, icône de la mode, homme de pouvoir, disparu en février dernier. Elle avait déjà travaillé sur le sujet du vivant de Lagerfeld, mais c'est après sa mort que les langues se sont déliées. Sans hésiter, on peut aussi choisir East Village Blues de Chantal Thomas, une éducation sentimentale et existentielle dans le New York des années 70. Côté roman, on recommande le Julian Barnes, La seule histoire, sublime roman d'amour, et dans le domaine français, évidemment, le prix du livre Inter, Arcadie, d'Emmanuel Bayamaktam, un livre charnel, joyeux, mordant, subversif, où il est question d'utopie communautaire et de liberté sexuelle.
Le sport, donc, après les livres. D'abord, l'une des plus belles affiches que peut offrir le tennis, Nadal, Federer. C'est en ce moment à Wimbledon pour une place en finale contre Djokovic. Bonsoir Jean-Pierre Blimaud.
Bonsoir Sébastien.
Et pour l'heure, un 7 partout.
Oui, car Roger Federer a gagné le premier set 7 jeux à 6. Il a pris le bouillon dans le deuxième, 6 jeux à 1 avec un Nadal retrouvé. Federer qui a commis quelques fautes directes qu'on n'a pas trop l'habitude de le voir commettre. Et puis ensuite, il a attaqué le début de la troisième manche avec 2 aces, un service volé gagnant, histoire de montrer qui est Raoul, ou plutôt qui est Roger, dans son entrée ici sur le central de Wimbledon, qui est son jardin où il a gagné 8 fois. Et pour le moment, un jeu partout dans le début de cette troisième manche.
Merci.
Je peux vous dire que le match peut durer.
En effet, on suit ça avec vous. Merci Jean-Pierre Blimaud en direct de Londres. Septième étape du Tour de France. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.
Groenewegen s'impose, Chicon reste en jaune. Étape moins palpitante que celle d'hier, sauf à la fin.
Dans l'emballage final, Sébastien, il avait raté la victoire et le maillot jaune le premier jour à Bruxelles à cause d'une grosse chute à 1,5 km de l'arrivée. Dylan Groenewegen a pris sa revanche en signant à Chalon-sur-Saône son 4e succès sur la grande boucle, 2 ans après le premier sur les Champs-Élysées. Victoire magistrale au sprint pour le coureur de 26 ans en force devant Caleb Ewan et Peter Sagan.
À chaque fois que j'affronte Caleb, c'est toujours très serré. C'est un très bon sprinter, mais aujourd'hui, j'ai montré que je pouvais le battre. Le début du tour a été très dur avec ma chute lors de la première étape. Depuis hier, je me sens mieux et aujourd'hui, mon équipe a bossé dur pour moi et on a remporté l'étape. Je suis très heureux de cette victoire.
Troisième succès dans ce Tour de France pour la formation Jumbo, qui a aussi eu le maillot jaune avec Mike Tennyson.
Deux coureurs se sont extraits du peloton, un peloton qui ne réagit pas.
Une journée interminable. Les coureurs sont arrivés avec 20 minutes de retard sur le plus mauvais horaire. Le peloton s'est contenté de contrôler deux attaquants, Johan Ofredo et Stéphane Rossetto. Rossetto dégoûté par l'attitude des autres coureurs du peloton qui reste à son goût trop passif.
Le directeur du Tour nous a bien briefé sur le fait que faites-vous plaisir les gars, allez-y quoi. Et je suis pas certain qu'on se fasse plaisir en passant 6 heures dans un peloton qui avance à 35 à l'heure. Ah ouais, alors qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Bah, j'ai fait 6 heures dans un peloton. Ah putain, la tristesse quoi. C'est le Tour de France, c'est pas le Tour du Poitou-Charentes ou le Tour du Limousin. Les gars, il y a que leur mère qui savent qu'ils sont au Tour de France quoi.
Le coup de gueule de Rossetto, c'est Johan Ofredo qui a été désigné coureur le plus combatif du jour, Sébastien.
Et il y en a un qui a toujours honte.
Au lendemain de sa déconvenue de la planche des belles filles, Romain Bardet, repoussé à plus de 2 minutes des leaders, a tenu à prendre la parole devant ses coéquipiers, puis devant les micros ce matin à Belfort. Il n'a pas lui-même employé le mot honte, mais il a répondu par l'affirmative lorsqu'on lui a demandé si c'était bien ce qu'il ressentait.
À chaud, les mots sont toujours forts, mais bien sûr que je suis revanchard et très mécontent de moi d'avoir travaillé si dur et de... premier rendez-vous, d'avoir l'impression d'avoir été spectateur et d'avoir manqué ça. Ça change beaucoup de choses parce que voilà, je suis pas venu sur le tour pour montrer ce visage-là. Les gens me répondent pas comme je voulais sur la première arrivée au sommet. C'est pas un bon gage pour moi, donc j'espère vite effacer ça.
Romain Bardet arrivera chez lui à Brioude après-demain, 14 juillet. Sébastien.
L'image du jour, Fabrice, c'est une haie d'honneur pour les coureurs.
Réalisé au départ de cette 7e étape à Belfort par une 30aine de salariés de General Electric en lutte contre le plan de suppression de 1000 emplois de l'industriel américain Alexis Esma, délégué sud chez GE.
Ça fait 140 ans que l'industrie est installée à Belfort et cette industrie est menacée. Il est important pour nous de faire valoir cette lutte, d'être visible, d'obtenir du soutien. On n'a pas envie de voir Belfort devenir un ghetto économique. L'objectif, c'est d'avoir une résonance nationale pour que le gouvernement se positionne.
Le Tour de France, formidable caisse de résonance pour de nombreuses causes. Demain, la 8e étape emmène les coureurs de Mâcon à Saint-Étienne sur 200 km. Une étape piégeuse dans les monts du Beaujolais et du Lyonnais et sur les routes du département de la Loire.
On suivra ça avec vous, Fabrice Rigobert, Hélène Langlois et toute l'équipe de Radio France. Merci, à demain. Le temps.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
plutôt agréable demain, Élodie Calac.
Et oui, c'est vraiment entre les frontières du Nord et la Franche-Comté qu'on aura le plus de nuages demain, parfois avec une averse. Entre la Manche, la région parisienne, le centre, moins de nuages, du soleil qui s'imposera largement l'après-midi. De l'océan vers le sud-ouest, Rhône-Alpes et la Méditerranée, là le soleil sera très présent. Juste quelques nuages bas vers le Pays Basque, les Landes, mais on n'en parlera plus l'après-midi. Peut-être une averse sur l'est des Pyrénées et le Mercantour. Et puis du Mistral qui se renforcera jusqu'à 80 km à l'heure.
Les températures ?
12 à 16 degrés au nord le matin, on ira jusqu'à 21 à 29 l'après-midi. Et puis au sud, on partira de 16 à 23 degrés le matin pour atteindre 28 à 35 au meilleur de la journée. Un petit mot pour dimanche, on aura encore beaucoup de soleil, toujours plus de nuages au nord de la Seine et dans l'est, avec un risque d'averses orageuses en montagne. Il fera un petit peu moins chaud, une moyenne de 25 degrés au nord et de 30 au sud.
Merci Élodie Calac, merci aussi à Loïc Frapsos, Antoine Gomez et Clément Berman qui toute cette semaine étaient aux manettes des journaux de 13, 18 et 19 heures de France Inter.
Et merci à vous Sébastien Paour et bon week-end.